When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Post-Scriptum, le podcast qui ouvre un nouveau dialogue.
Lettre sonore numéro 23. Cher flic.
Je peux savoir ce que les policiers, s'il vous plaît,
c'est toi, Amar ou Bakar ?
Trois, là.
Et nous, trois victimes.
Ok. Alors,
quoi ?
Allez, vas-y, frère.
3, 2, 1.
Bonjour. Cachot d'identité, s'il vous plaît.
Bonjour.
J'ai pas mes papiers, monsieur.
On n'a pas nos papiers sur nous, monsieur.
Quand même, mettez-vous sur le côté.
On va passer à la fouille.
Vous avez des choses ?
J'ai rien du tout.
J'ai que mon téléphone.
D'accord, vous êtes mineur ou majeur ?
Mineur.
Cher policier,
vous avez une attitude bizarre. Quand vous contrôlez, vous vous croyez au-dessus avec votre pouvoir là. Vous avez une attitude irrespectueuse. Enfin, quand ils ont leur costume là, leur uniforme, ils sont puissants.
Tu peux enlever tes mains de ta poche, s'il te plaît ?
Désolé.
C'est une question de sécurité.
Désolé, chef.
Monsieur, vous pouvez vous remettre avec le groupe, s'il vous plaît ?
D'accord.
Vous avez quoi sur vous ?
Un petit pétard.
De la drogue.
Il me reste un stick.
Mais c'est de la drogue.
Un stick ?
C'est interdit dans la
rue. C'est de la drogue ou pas ?
Sortez-moi tout ce que vous avez, s'il vous plaît. Tu peux écraser ça, s'il te plaît, devant lui ?
Chers jeunes des quartiers populaires, nous ne sommes pas ton ennemi. Si tu n'as rien à te reprocher, alors laisse-nous faire notre travail. Nous sommes là pour te protéger, mais aussi pour protéger ta famille. Si tu as eu une mauvaise expérience de la police, s'il te plaît, ne fais pas d'amalgame.
Si on est là, c'est pas pour rien. Vos papiers, s'il vous plaît.
On les a pas.
Vous allez finir au poste,
mais
4 heures. Parce que c'est dans la loi, il faut avoir vos papiers.
Mais on vous a pas insulté, on vous a rien fait.
Mais c'est pas question d'insulter. Ce n'est pas question d'insulter ou pas, là. C'est question que qu'est-ce que vous faites ici, en fait. Et ouais. J'ai trouvé dans ses chaussettes une barrette de chute.
Ce soir, il dort.
Mets-lui les pinces. Mets-lui
c'est
les
pas
pinces.
Lui, c'est pas lui, c'est lui-là.
Mets-lui les pinces, mets-lui clac, les pinces clac. Aussi.
Mais c'était pour le camoufle de ta caleçon.
Tu me prends pour un con ou quoi, là ?
T'as un problème, toi ?
Ah, tu arrêtes de parler comme ça, s'il te plaît, combien de fois je t'ai dit ?
Dis pas que t'as la liberté d'expression, que ça y est, frangin.
Tu vas te calmer rapide avant que je te mette une claque, là. Ok ?
Pardon.
On s'en fout.
On s'en fout. Allez, on les met. Ting,
tong. Merci, au revoir.
Allez, au poste.
Un petit groupe de jeunes Marseillais en visite à Paris improvise sur le thème d'un contrôle de police. La scène, enregistrée dans le studio d'une grande radio, aux débeautés, totalement improvisée et criante de vérité. Plusieurs associations de quartier ont tenté, sans succès, d'organiser des rencontres entre policiers et adolescents des quartiers populaires. Mais comment dépasser les préjugés ? Pour les uns, ce sont des keufs, des schmitts, des condés, des racistes. Pour les autres, ce sont des racailles, des délinquants en puissance. Alors, dans cet épisode, nous avons décidé de donner la parole à un policier et à un jeune qui a eu des ennuis avec cette institution par le passé. Tous les deux sont Marseillais, ils ne se connaissent pas, mais peut-être qu'ils se sont déjà croisés. Jamais, en tout cas, ils n'auraient accepté de se parler en face à face. Mais par micro interposé, il pourrait peut-être être plus à même de s'écouter.
Les policiers font ce métier pour protéger la ville. Mais il y en a, ils ne protègent pas la ville. Ils la tabassent. Quand tu les regardes, il y a un jeu du regard, directement. Ils te regardent, je sais pas, ils te dévisagent. Ils te regardent mal et tout. Si tu restes en train de les regarder... Ils vont automatiquement venir vers toi parce qu'ils voient genre que tu es en train de résister au regard. J'ai pas envie qu'ils me violent du regard. Moi, je les regarde. Ça leur met la haine, ils aiment pas. Moi, je baisse pas le regard. Mes potes, ils baissent pas. C'est pour ça qu'ils viennent à chaque fois me contrôler. Chers policiers, est-ce que je vous aime ? C'est moite-moite. Oui et non. Oui, parce que vous aidez les gens. Vous les sauvez. Voilà, pour ça, et non, parce que vous êtes violent un peu. quand il n'y a pas de caméra, vous êtes violent un peu. Vous parlez mal, quand il n'y a personne. Est-ce que vous me faites peur? Non. Je m'appelle Amar, j'ai 17 ans, je viens de Marseille et j'ai grandi là-bas. J'ai grandi dans le centre-ville de Marseille, à Velten. J'ai un petit frère et une petite sœur. Ah, mon père travaille dans Honnet, c'est une entreprise de sécurité. Et ma mère, elle ne travaille pas. Je suis né en Algérie et je suis venu jeune en France. J'avais moins d'un an, j'étais vraiment petit. Et je suis français. J'ai eu une petite dizaine de contrôles dans ma vie. Ça a commencé à 15 ans. Tous les mêmes. Contrôle de police, mettez-vous sur le côté. Papier, pas de stup, pas d'armes. Faut tout le temps leur déclarer ce que tu as. Sinon, ils te le prennent. Le shit ou de la bœuf. Ou des fois, il y en a, ils te l'écrasent. On se met tous sur le côté, les mains en évidence, derrière le dos, bougez pas. Et je pète un fou rire. Parce que moi je rigole, moi, dans les actions comme ça. Parce que je m'en fous, je sais, ils vont me relâcher. Donc je rigole. C'est mon collègue, il me fait rire. Parce que sa tête, elle me fait rire quand il se fait contrôler. Il a peur. Je sais pas, il a une tête choquée un peu.
Je m'appelle Serge, je suis fonctionnaire de police, je suis de Marseille, j'ai travaillé pendant plusieurs années dans le quartier nord de Marseille. Je suis également membre du bureau national du syndicat Vigipolice. J'ai 47 ans et je suis père de famille. Alors je me souviens, il y a quelques temps de ça, nous étions en patrouille en voiture et à notre vue, il y a un jeune qui part en courant. Donc du coup, on se demande s'il a quelque chose à se reprocher. Donc du coup, on le rattrape, on le contrôle et en fait, quand on le contrôle, ben, ça part en outrage, en insulte. Du coup, on l'interpelle parce que c'est la procédure. Et lors d'interpellation, il se rebelle, il ne se laisse pas interpeller. Ben, il a empêché qu'on le menotte, il a fallu mettre les techniques professionnelles pour le menoter et tout ça. Mais les mots, ils étaient forts, quoi. Je veux dire, c'était des insultes dans tous les sens, quoi. Sans aucune raison. Et en fait, on essaie de comprendre pourquoi il a pris la fuite en nous voyant, il nous explique pas, il fait que nous insulter. Ben nous, on pensait déjà que, vu la situation, il avait fait quelque chose de grand, quoi. On pensait que, pour qu'il refuse tout ça, on a dit, il a fait quelque chose, en fait. Et en fait, quand la situation se calme, quand on revient au commissariat pour le présenter à l'officier de police judiciaire, ben là, ce jeune redescend, en fait, il se calme. Et en fait, il dit que simplement, il nous a vus et qu'il a pris peur. Et qu'en fait, il a pris la fuite sans aucune raison, qu'il n'a rien à se reprocher. Ce qu'on a pu vérifier après, qu'il avait rien à se reprocher. Il a vu la police et il a eu peur. Alors, je peux pas vous dire pourquoi. Peut-être que dans son passé, il nous a pas tout dit, probablement. Hein. Et c'est ces situations-là qui sont dommageables, je veux dire, parce que finalement, si on n'a rien à se reprocher, le contrôle, il peut très bien se passer, quoi. Après, quand il y a un outrage, tout ça, je vous dis, normalement, le fonctionnaire de police peut déposer plainte. Et vous voyez, moi, j'ai pas déposé plainte. Et c'est dommage que ça dégénère. Ça peut prendre des proportions terrible, parce qu'après, un contrôle d'identité qui dégénère peut enflammer une partie d'une cité, je veux dire, parce que, ouais, ce qu'ils ont fait, nana, alors que personne ne sait ce qui s'est passé sur ce moment-là, c'est dommage qu'on en soit là, quoi.
Allez, les microbes. Viens voir, là. Faites quoi, là?
Ouais, on est là, en galère.
Vous avez plus de place au Club Med, ou quoi?
Non.
Allez, jouer, là.
Extrait du film Les Misérables. Réalisé par Nadji.
J'ai arrêté l'école en troisième parce que ça m'a saoulé l'école. Je suis pas trop fan. Ça fait mal à la tête. Les cours, les profs, tout. Mais après, à un moment, ça m'a manqué un peu. Mais après, je me suis dit, c'est bon. Faut que je passe à autre chose. Faut que je travaille et tout. Parce que j'ai redoublé une fois la cinquième jusqu'à ma quatrième. C'est là où j'ai arrêté d'aller en cours. Et les notes, c'était pas trop ça. Ça dépasse pas la moyenne. Non, à part le sport. Le sport, ça va, j'avais 15-16. Le prof, il m'aimait bien. Tous les profs, on dirait, ils m'aimaient pas, c'est pour ça. En tout cas, je les voyais qu'ils m'aimaient pas. Ouais, c'est vrai, j'étais un peu bruyant et tout. Je jetais des trucs. Je sais pas, des papiers et tout. Je m'asseyais au fond de la classe. Il y en avait plein d'autres. Il n'y avait pas que moi. J'étais exclu. Mes parents, ils pensent qu'il faut rester droit dans l'école et continuer les études. Il me disait, faut que tu travailles bien, faut que tu ramènes des bonnes notes. Il me crie dessus. Soit je restais chez moi, je dormais, ou soit je séchais. Il n'y avait rien à faire, on sortait. Tous les jours, j'avais au moins 2-3 heures d'absence, tous les jours. Je préfère le quartier que l'école. Quand le brevet commençait à arriver, je devais aller au brevet et je ne suis pas parti au brevet. Je voulais faire routier, conducteur poids lourd. Je voulais faire ça, je demandais au lycée, et le lycée ne m'ont pas pris. C'était un lycée où ils faisaient passer les permis et tout, pour les poids lourds. Je ne peux plus aller à l'école. Je traînais dehors. Je crois que j'ai passé un an sans école. J'étais en bas de chez moi, j'étais calé avec mon collègue, on fumait. De là, il y a des civils qui passent. Ils sont passés. Et moi, je les ai regardés comme ça, je les ai pas lâchés. De là, ils sont descendus. Ils nous ont contrôlés. Ils m'ont embarqué. C'était juste un contrôle banal. Ils ont vu que j'avais un téléphone volé. Et moi, je savais pas qu'il était volé. Moi, je me suis dit, c'est bon, il est en règle. C'est un clando, il me l'a vendu. Un clandestin, ouais. Alors, ils m'ont ramené en garde à vue. Ça a duré 24 heures. J'étais dégoûté d'aller en garde à vue. Moi, j'étais sur le point de monter chez moi et dormir. Je me retrouve en garde à vue. J'étais en claquette, t-shirt, short. C'était pas le top. C'était en green cave. J'étais mal, tout seul. C'était angoissant, ennuyant. Ils m'ont rien dit, ils m'ont posé en cellule et ils sont partis. Ça date un peu, ça doit faire 6-7 mois. La prison, c'est quand tu te fais péter, pour, je sais pas, braquage. Tu vas voler une mamie. Pour ça, tu risques la prison, pas pour ce que j'ai fait. Ils ont fait ça pour juste me saouler, c'est tout. Quand ils t'embarquent, tu peux plus rien faire, ça y est. Tu es entre leurs mains. Moi, j'étais menotté, eux, ils étaient comme ça, ils parlaient normal, pépère. Ouais, je me sentais impuissant. Mes parents, ils l'ont su le lendemain. Mon père, il est venu me chercher. Il a vu, c'était un petit truc, il m'a rien dit.
Je suis issu moi-même des quartiers nord de Marseille. Depuis mon enfance, j'ai toujours voulu être policier, avec le concept un peu de la défense de la veuve et de l'orphelin, si on peut dire comme ça. Les choses injustes m'ont toujours révolté, en fait, depuis petit. Et déjà, quand j'étais au collège, au lycée, j'étais déjà délégué de classe pour essayer de porter la parole. Et la police, je trouvais que c'était un moyen d'assister les gens, aussi d'aider les gens, que c'était pas que le côté répressif, mais ça permettait d'être utile on va dire, à la société, oui. Et aussi de courir derrière les voleurs, les méchants, comme on dit, quand on était enfant. J'ai passé assez rapidement le concours gardien de la paix. J'ai été reçu donc au concours et après je suis parti, après mon service militaire, je suis rentré en école de police. Et après direction la région parisienne pendant quelques années. Et après je suis revenu en région marseillaise 4 ans après, en mutation normale. Et j'ai été affecté dans le quartier nord de Marseille. Et on était au contact de cités très sensibles marseillaises. La réalité c'était une pauvreté importante dans ces cités. Beaucoup de familles monoparentales, qui étaient souvent des mères de famille isolées, qui étaient dépassées un peu par les adolescents, avec des points stup aussi, des points de deal, des points de drogue, et tout ce que ça engendre, hein, des vols à violence, parce qu'il y a des personnes qui sont droguées, donc du coup qui cherchent de l'argent facile. Nous, on arrivait souvent en assistance, on arrivait aussi quand des fois ça dégénérait. Ça pouvait être des fois des situations très 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 tendues où ça partait en mini guérilla urbaine. Sur les points stup, des fois, on pouvait aussi éventuellement contrôler des acheteurs pour avoir des informations, tout ça. Mais nous, c'était pas notre mission principale. Il y avait beaucoup de différents familiaux, hein, des différents voisinages, parce que malheureusement, on est dans le sud aussi, hein, les personnes sont un peu plus sanguines. Donc du coup, souvent, ils avaient du mal à discuter, donc tout, on arrivait à calmer les choses. Après, ils avaient assistance à victimes, des cambriolages, voilà, on essayait d'être là pour... Par exemple, j'avais reçu une fois une personne, un père de famille, qui s'est fait brûler son unique moyen de locomotion, sans aucune raison, une voiture qui ne valait plus rien. Malheureusement, l'assurance ne lui remboursait rien, et du coup, il était, je le voyais, il était en pleurs, quoi. Il me demandait, aidez-nous, écartez cette minorité de personnes qui nous pourrissent la vie à tout le monde. On travaille, on se lève le matin, on s'achète des choses qui sont pas de grande valeur, ou on se fait voler, ou on s'est fait brûler. Et c'est vrai que la population, on va dire qu'à 90%, la population demandait notre assistance et était content qu'on soit là, quoi, qu'on soit visible, venait nous féliciter sur certains trucs. Je veux dire, c'était plutôt un bon lien population-police. Ouais, c'était vraiment pour ça que j'étais rentré.
Paris 20e.
Je l'ai même.
Il a vu la trottinette, il est parti.
Quartier des Amandiers.
Du coup, là, on est à la rue du Ris. C'est une rue principale du quartier. Elle est vraiment dans le cœur du quartier, quoi. Du coup, là, on est au QG, là. Principalement, c'est vraiment où tous les jeunes, ils se retrouvent, là. C'est quartier général, quoi. On est posé, on discute, on joue.
À la sortie des cours, on se rejoint parce qu'on s'est pas vu ça fait longtemps. Pendant les vacances, quand il fait chaud, pendant le ramadan, par exemple.
On s'amuse.
Voilà, c'est ça, on s'amuse.
Quelquefois, y a des confrontations avec les policiers, comme à peu près dans toutes les cités.
Dans le quartier, on peut se faire contrôler 6 fois dans la même journée, même s'ils nous ont encore contrôlés, ils vont dire oui, mais on a envie, et on a le droit.
on va dire, c'est des cow-boys. Ils viennent avec leurs armes et tout. Ils savent en fait qu'ils sont armés, ils savent qu'ils ont leur gazeuse, ils savent qu'ils ont des trucs comme ça. Et du coup, pour des trucs bêtes, en fait, nous, on va être là, on va être posés. Ils vont prendre ça comme nous dire, ouais, en gros, vous n'allez pas être là, partez et tout.
Clairement, de base, leur mission, c'est de nous protéger, mais là, on a l'impression qu'ils sont là pour nous faire chier.
Nous, dans notre tête, on se dit qu'eux, ils nous aiment pas, donc pourquoi nous, on devrait les aimer ? Ça dépend des patrouilles, en fait. Il y a des patrouilles où, limite, on se connaît entre nous et on parle normalement. Il y en a d'autres, ils viennent juste pour chercher l'embrouille, en fait, juste pour ça. Par exemple, eux, ils nous tutoient et ils veulent que nous, on les vous voit. Normalement, on a le droit de filmer. En fait, juste là, par exemple, il y a un contrôle. On va filmer, ils vont sortir les gazeuses, comme si on les agressait juste en filmant. Nous, quand on filme, on dirait qu'on sort une arme. Pour eux, c'est comme si on sortait une arme.
Aussi, nous, on a une part de responsabilité aussi. Ils viennent pas aussi comme ça et nous frapper ou quoi que ce soit. Nous aussi, on monte dans les tons, on se vexe facilement. Comme nous, on vit dans le quartier depuis petit. On a toujours vu ça avec les plus grands que nous. On a toujours vu ces rapports-là entre police et jeunes de quartier. On se dit directement quand on voit une patrouille de police, il va se passer ceci, il va se passer cela. Et du coup, on est obligé de monter dans les tons. En fait, je sais pas, c'est devenu ancré en fait en nous.
Hey, Drixé !
Ouais !
Ah, c'est Drix !
Au moment de se faire contrôler, vous savez, ils contrôlent les parties intimes. Concrètement, on prend mal. En plus, ils aiment bien palper des fois. Du coup, on prend mal. Et à ce moment-là, on dit, ouais, mais c'est quoi le truc ? On va leur dire, vous faites quoi ? Et là, ça va être, je ferme ta gueule. Je fais ce que je veux. C'est mon droit. T'es pas content, on va porter plainte. Et eux, dans tous les cas, c'est la police. La police, ça représente l'État. Jamais, voilà quoi. Pour moi, c'est comme ça. La police, ils vont toujours gagner. C'est aussi simple que ça. Ce qu'il faudrait réellement pour que l'État il change, pour que c'est le fait qu'en gros, qu'il y a des bavures, que certaines bavures, faut les punir. Mais réellement les punir, c'est pas mettre 3 mois de sursis à un policier ou de le changer de commissariat ou un truc comme ça. Vraiment, en fait, de le juger comme une personne lambda, n'importe laquelle. Voilà, on aimerait quand même que ça s'apaise, ces tensions-là.
Il y a certains jeunes qui sont vraiment à fleur de peau et qui en fait supportent peut-être pas le contrôle. Je parle des jeunes bien sûr qui n'ont rien à se reprocher. Hein. L'impression de peut-être les priver de leur liberté alors que finalement, juste un contrôle d'identité, on présente la carte d'identité, on n'a rien à se reprocher, c'est courtois, ça se passe bien. Et s'ils sont courtois, nous on est courtois, il n'y a aucune raison pour que ça dégénère quoi en fait. Ça doit durer 3-4 minutes, un passage au fichier, voir si la personne est recherchée, tout ça, et c'est fini, comme si de rien n'était quoi. Je suis quelqu'un d'assez calme, d'assez empathique. Je veux dire, je me suis déjà retrouvé à des contrôles d'identité qui ont dégénéré parce que la personne qui était en face de moi, elle a vu que l'uniforme, elle a vu que le policier. Et pour elle, voilà, j'étais son ennemi. Ouais, je comprends pas ce contrôle d'identité, c'est pas normal, c'est hors la loi. Vous voyez, tous les fantasmes, tout ça, c'est parce que je suis de telle origine ou telle origine. Donc la personne qui commence à refuser, à bouger à droite à gauche, à commencer à mettre les mains dans les poches, ça c'est la gestuelle, ça. Et après, ça commence par le tutoiement. Nous, on ne doit pas tutoyer normalement. Mais le jeune qui est en face de nous ne doit pas tutoyer. Donc déjà, ça part de là. Si chacun reste dans le vouvoiement, dans le respect et tout ça, ça ne peut pas dégénérer parce qu'il y a du respect des deux côtés. Après, ça peut arriver qu'il y a peut-être un fonctionnaire qui tutoie le jeune, mais ça ne peut pas être vu comme du... Comment on peut dire ça ? Pour manquer de respect aux jeunes, c'est peut-être parce que c'est un père de famille qui est en face de lui un jeune. C'est peut-être un tutoiement paternaliste. Je veux dire, c'est peut-être quelqu'un qui a des enfants du même âge que la personne qu'on contrôle. Et du coup, il a peut-être l'impression d'avoir son fils ou quelqu'un de sa famille. En fait, un contrôle d'identité, s'il est fait, c'est qu'on a le droit de le faire. Mais le contrôle d'identité, en fait, il peut être demandé par le procureur de la République sur une zone où il y a eu beaucoup d'infractions. C'est-à-dire que sur une période donnée, de telle heure à telle heure, à tel endroit, une zone délimitée géographiquement et tout, on peut procéder à un contrôle d'identité comme ça. En fait, aléatoire. En fait, c'est parce qu'il y a eu beaucoup d'infractions qui ont été commises. Et en fait, si la personne se retrouve à ce moment-là, à cet endroit-là, lors du contrôle d'identité prévu par le procureur de la République, on peut le contrôler. En fait, c'est pas contre la personne en elle-même, c'est juste parce qu'on a pour instruction de contrôler. Parce que peut-être dans ce périmètre-là, ça nous permettra d'avoir des éléments sur un contrôle d'identité qui nous permettra peut-être de remonter sur des affaires, tout ça. Et après, c'est pas une question d'origine ou de... comme on a entendu dire, de faciès, non, pas du tout, non. Il faut savoir quand même que nous avons des fonctionnaires de police qui sont de plus en plus originaires de différentes parties du monde. Et donc, du coup, je veux dire, j'ai des collègues que je travaille qui sont d'origine comorienne, qui sont d'origine maghrébine, qui sont d'origine de toute africaine, nord-africaine. Ce fantasme-là, non. C'est-à-dire qu'en fait, si ce jeune-là, il a l'impression de contrôler sans arrêt au même endroit par toujours les mêmes fonctionnaires, c'est peut-être qu'il se retrouve tout le temps dans cette zone-là. Voilà. Après, si j'avais travaillé avec des personnels fonctionnaire de police qui aurait dit ben non, on va contrôler que des personnes de telle origine, que des personnes de telle origine, que des personnes de telle origine, pour moi c'est inacceptable. Donc voilà, je l'ai jamais vécu, je l'ai jamais vu. en plusieurs années de quartier nord, je n'ai pas vu ça. Un contrôle d'identité, c'est pour tout le monde. Voilà, c'est pour tout le monde. Notre institution n'est pas raciste. Mais la personne, après, si elle pense qu'elle a été bafouée dans ses droits, elle a des recours, je veux dire. Donc, tout citoyen a le droit de se plaindre. Si les faits sont avérés, ben, la personne sera punie. S'il y a des comportements qui sont répréhensibles, ben, les citoyens doivent faire remonter la chose. Parce que justement, des comportements déviants salissent notre profession. Et l'excellent travail qui est fait par la majorité des collègues, ben, du coup, on va dire que l'excellent travail n'est pas mis en valeur et on pâtit tous des comportements déviants de certains policiers.
Bonjour, mademoiselle.
Il y a des abrutis dans toutes les professions, mais nous, quand il y a un abruti dans la nôtre, ça, c'est beaucoup plus visible.
Contrôle de police. Vous faites quoi, là?
On attend le bus.
Quoi?
On attend le bus.
Vous attendez le bus, là? C'est à toi, ça? T'as quel âge, toi?
15.
15 ans? Et à 15 ans, tu fumes? Ça sent le shit, ça? Hein? Bon, il est où? Tu l'as mis où?
Vous avez pas le droit de m'affronter.
Tu fais ce que je veux. Tu l'as mis où?
Vous avez pas le droit de m'affronter comme ça.
Comment ça, j'ai pas le droit? C'est l'état d'urgence, si je veux, je te mets un doigt dans le cul, t'as compris?
Mais c'est pas normal.
Ferme ta gueule, toi.
Vous avez pas le droit de faire ça.
Tu veux faire 48 heures?
Vous avez pas le droit de faire ça, vous avez pas le droit.
Eh, hey, c'est bon, c'est bon.
Ça va, je gère. T'as trouvé ça où? Tu veux que je continue à te palper ou pas? Tu fais quoi, là?
Je vous filme, vous avez pas le droit de faire ça.
Arrête de filmer.
Non.
T'es contente, là? Petite conne, va. Allez, dégagez, là. Toi, arrête de fumer, c'est mauvais pour la santé. Hein?
Mes relations avec la police, ça a commencé, je sais pas, vers mes 15 ans. C'est là où j'ai commencé à faire les coins stupes et tout. Les coins stupes, si vous savez, la drogue. C'est dans les quartiers. C'est dans une tour ou en bas de la tour, c'est n'importe où. Il y avait tous mes collègues, je restais avec eux. Ouais, c'est des endroits où eux, ils dealent. Mes potes, ils vendent de la gueudro. Shit, beucock. Et moi, à chaque fois que je passe, je reste avec eux. Les contrôles, ils ont commencé. Moi, je restais calé. Et à chaque fois, ils venaient, contrôle de police. La routine. Moi, j'ai déjà vendu. J'ai déjà vendu du shit. À mes fins de 14 ans jusqu'à mes 16 ans. Quand j'ai arrêté l'école, je guettais. Après, je voulais vendre et j'ai vendu. Moi, je faisais que des petites périodes, 3-4 jours. Je claquais tous les sous, je repartais 3-4 jours. Je partais avec des collègues, on sort, on va claquer les sous. Je sais pas, n'importe, on va manger, on fait des sorties, mon délire et tout. Après, il y a les habits aussi, il faut acheter. Tu achètes ce que tu veux. Pour m'amuser, pour me débrouiller aussi. Parce que mes parents, ils me donnaient pas trop de sous. J'avais pas besoin de sous, mais j'avais besoin de sous. Parce que je commençais à fumer et tout. Je peux pas dire à ma mère, donne-moi 10 euros, donne-moi ci, donne-moi ça. Mes parents sont pas au courant. Je me suis arrêté seul. J'ai vu, c'était trop chaud. C'était trop bouillant. Il y avait trop de policiers et tout. Je voulais pas rentrer en prison. Et c'est mon animateur aussi, il m'a dit et tout. Il m'a incité aussi un peu à arrêter. Il travaille dans le centre du quartier, pour les jeunes. Il me disait, viens, c'est pas bien et tout. Je l'écoutais. Ça me dégoûtait. C'est angoissant un peu. Tu restes comme ça, tu regardes une route. Chaque voiture qui passe, tu dois l'analyser. Et moi, dans ma tête, je me disais, ouais, je fais quoi et tout. Je me remettais en question. Pourquoi je fais ça? Je dois arrêter. Je me vois pas faire ça. J'avais peur qu'ils viennent me tabasser. La police. Parce qu'ils frappent les guetteurs dans le quartier et tout. Comme elle attrape pas le vendeur, automatiquement, elle va chez qui? Elle va chez les guetteurs. Ils mettent 2-3 claques. Enfin, je l'ai déjà vu 4 ou 5 fois, ça. J'ai pas la même gamberge que mes collègues. Mes potes qui charbonnent, ils kiffent leur vie. Ils ont même pas besoin de demander leur soin à leurs parents. C'est ça, charbonner. Guetteur, vendeur. Vendeur, c'est mieux payé que guetteur, parce qu'il y a plus de risques. S'ils travaillent tout le mois, ils tournent autour des 3000. Vendeur, 3000 euros. Guetteur, ça doit tourner à 2000-2500. Ils font que ça. Leur vie, c'est ça. Ils vont plus à l'école. Ils vendent de la mort en sachet. La coque, en gros. C'est ça qui tourne le plus. Il y a ça et le shit et la bœuf. J'aime bien les voir. Parce que ça me fait plaisir de les voir. Ils sont toujours là et tout. Je les trouve courageux parce que c'est des débrouillards. Ils ont pas de sous, personne va leur donner. Ils ont des parents, mais leurs parents, ils ont pas 3000 euros par mois. C'est eux, ils vont faire leur sous pour eux.
Maintenant, c'est de plus en plus jeune, la délinquance. Et effectivement, on peut se retrouver avec des personnes qui font le guet, qui font le chouf, comme on dit, qui se retrouvent à 10, 12 ans et qui alertent les vendeurs, justement, pour... lors d'arrivée de fonctionnaires de police. Donc du coup, effectivement, hein, si vous arrivez devant quelqu'un qui commence à crier la police, enfin c'est arara, on dit, dans les cités, bah, du coup, effectivement, s'il est contrôlé, c'est logique. Je veux dire, même s'il est jeune, c'est logique. Parce que pourquoi il crie police? Alors, on sait très bien que c'est des guetteurs. Donc du coup, il me semble qu'il touche dans les 80 euros pour une journée à faire le chouf, comme on dit. Au niveau pénal, ils sont responsables plus tard au niveau de l'âge et du coup, ben, les dealers se servent d'eux en fait, de couverture en fait, hein, parce qu'ils savent qu'ils risquent pas grand-chose au niveau pénal. Donc du coup, ben, on cherche de plus en plus jeunes pour protéger les pontes et les gros, hein, comme on dit, hein, donc ceux qui dealent et ceux qui fournissent, etc., etc. Ils se protègent derrière des gamins, quoi.
Ouais, il y a des flics, je parle avec eux normal. Comme si c'était des collègues à moi, je leur parle. Bonjour, ça va? Parce qu'il faut aussi dire que c'est pas tous les flics qui sont mauvais. Il y a des bons et il y a des mauvais, comme de partout. Moi, j'ai vu des bons et j'ai vu des mauvais. Un bon, c'est qui te parle gentiment, qui te respecte, qui te rabaisse pas. Un mauvais, c'est un qui te parle mal. Une fois, il y a un flic, il m'a rabaissé, il m'a insulté, il m'a mis une baffe et il m'a dit de partir. Ouais, c'était un contrôle et j'étais pas tout seul. Il m'a mis une baffe là, sur le visage. Il m'a dit, vas-y, casse-toi de là, trou du cul. Là, je me suis senti rabaissé. Comment j'ai tracé, moi, je m'en foutais.
L'administration essaie de rattraper le retard de recrutement, mais on est en sous-effectif. Hein. On a déjà dénoncé plusieurs fois, et au niveau effectif, c'est compliqué, parce que voilà, on se retrouve à des services qui sont déplumés, des fonctionnaires qui sont rappelés régulièrement, des fonctionnaires dont les congés sont supprimés. Donc oui, au niveau recrutement, on est malheureusement pas assez. Au niveau de notre syndicat Vigipolis, là, donc je suis membre du bureau national de Vigipolis, nous, on a alerté les collègues, justement, pour éviter une usure... déjà personnel, parce qu'en fait, d'accumuler de nombreuses heures, de travailler, tout ça, effectivement, on peut être à fleur de peau, entre guillemets. Donc c'est toujours pour ça qu'on appelle toujours, nous, les collègues, au niveau du syndicat Vigie, à prendre soin d'eux, entre guillemets. C'est-à-dire que si jamais ils sentent qu'ils sont en usure, parce qu'ils ont fait trop d'heures, trop de vacations, hein, de prendre du recul, justement, pour éviter peut-être d'être à fleur de peau et de... On a un fonctionnaire de police, mais derrière le fonctionnaire de police, il y a un être humain. Donc un être humain qui est fatigué, il est plus vulnérable à une agressivité que quelqu'un qui est en forme, quoi. Si la personne qui est en face de nous nous déteste, c'est compliqué pour que le dialogue s'installe. Donc ça serait bien que ça s'apaise, tout ça.
J'ai déjà caillassé des kippis, des flics. Jour de match, OM Paris. C'est le match de foot. Devant le stade, il y a la police qui vient pour stopper les supporters. Parce qu'il y avait trop de gens, trop de supporters. Il y avait fumigène et tout. Devant le stade Vélodrome, à l'entrée. Parce qu'ils ne voulaient pas nous laisser rentrer. Ça caillasse et... que des cailloux. Petit rocher. Il est allé dans la tête du CRS. Mais heureusement, il avait un casque. Parce que sinon, je l'aurais fait mal. Cher policier que j'ai caillassé, excuse-moi. Voilà, si je t'ai fait mal, c'est pas de ma faute. Enfin, c'est de ma faute, mais... désolé. Je me vois pas me mettre à leur place. Parce qu'il y en a, ils sont mauvais. Il y en a, ils méritent même pas que je me mette à leur place. Et là, aujourd'hui, je vais passer les formations. Logistique. Dans 10 ans, j'aurai quel âge? 27. Je serai marié, Inch'Allah, avec des enfants. Je serai conducteur poids lourd. Si tout se passe bien. Inch'Allah. Je penserai même plus à vous. Je penserai même plus aux policiers.
venez d'écouter une lettre sonore de Postscriptum, le podcast qui, deux fois par mois, ouvre un nouveau dialogue. Retrouvez toutes nos lettres sonores sur votre appli de podcast. Vous pouvez vous abonner dès maintenant à Postscriptum et n'hésitez pas à nous mettre des étoiles. Si vous avez aimé cet épisode, vous pourriez aussi aimer « Cher ex-violent ». Vous pouvez aussi retrouver Postscriptum sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter. Vous pourrez y découvrir nos coulisses et des extraits en avant-première.
Treat mom to healthy, glowing skin with Osea's limited edition skincare sets. Osea has been making clean, seaweed-infused products for nearly 30 years. Their Golden Glow body set includes 3 clinically proven bestsellers for smooth, glowing skin, while the Glow and Go facial set provides spa-level results at home. Both sets come in giftable boxes with savings up to $48 and free shipping for a limited time. For 10% off your first order site-wide, go to oseamalibu.com and use code MOM.